Moi, je vais essayer de brosser une série de choses par rapport à donc une enquête qui a été réalisée près de 1000 parents d'élèves au printemps passé et qui s'est centrée par rapport au numérique sur trois choses différentes. Il y a l'équipement numérique, donc les nécessités pour les établissements, pour les élèves, d'avoir un équipement numérique à l'école, les demandes faites par les écoles, le coût du numérique à charge des parents et comment ça fonctionne, les aides qui existent aujourd'hui au niveau de la Fédération de Bruxelles pour aider par rapport à ça. L'éducation au numérique en tant que telle, ça, on devra voir au niveau du temps de la présentation, si on aura le temps de le faire en détail, mais on va essayer. Et alors, la question de la communication numérique, qui se fait à la fois entre les élèves et les professeurs, et puis entre les parents et l'école. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu cette méthodologie, et puis venir sur ces trois points. Alors, méthodologiquement, donc on a diffusé un questionnaire auprès de 1000 parents, donc qui a été relayé aussi par d'autres organisations, et on sait que dans les questionnaires que la Ligue des Familles fait, on a toujours un biais important, c'est que les familles de milieux populaires, les familles en situation de pauvreté, il y a une sous réponse, notamment parce que il y a des inégalités numériques, une fracture numérique, et que donc comme nos questionnaires se font en ligne, c'est compliqué. Donc on a essayé de travailler à ça, notamment en travaillant avec des écoles des devoirs pour essayer de contrecarrer ça. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, donc c'est un petit point important de méthodologie au départ. Vous verrez qu'il y a particulièrement certaines réponses où, a priori, il y aura sans doute une sous-évaluation d'une série de problèmes, et je le signalerai à ces moments-là, parce qu'il y a cette sous-représentation importante des familles de milieux populaires. Alors, première partie dont on va parler, la question de l'équipement numérique. Donc, quelle est la nécessité ressentie par les parents, par les élèves, d'avoir un équipement numérique dans le cadre de l'école, et quel est le coût aujourd'hui à charge des familles? Alors, première chose, on s'est rendu compte que, autant maintenant en primaire qu'en secondaire, c'était devenu massivement nécessaire pour les parents d'équiper les enfants en matériel numérique. Massivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en primaire, il y a 40% des familles qui nous disent on a besoin d'équiper l'enfant en matériel numérique, et en secondaire, 90%. Alors, on a essayé d'affiner un petit peu et de comprendre en quoi est-ce qu'il fallait amener ce matériel à l'école, ou est-ce que c'était par exemple dans le cadre du travail scolaire à la maison pour les devoirs. Et par exemple, en secondaire, donc 90% en général ont besoin d'un ordinateur, de matériel numérique. Et parmi ces 90%, 40% ont besoin de l'amener à l'école, entre autres. Donc, on voit qu'il y a vraiment une utilisation de plus en plus massive des ordinateurs qui se fait, en fait, depuis la crise Covid. C'est là qu'il y a eu un vrai basculement. On veut juste rappeler ça aussi, c'est important, c'est que avant la crise Covid, on avait posé ce genre de questions. Et là, il y avait des demandes des écoles, il y avait des nécessités ressenties, mais vraiment minimes, existantes, de l'ordre de entre 10-20%, mais là, on a vraiment eu un basculement. On expliquera un petit peu plus tard que c'est pas uniquement la crise Covid qui a généré ça, mais qu'il y a eu aussi des modifications décrétales qui ont permis aux écoles de faire des choses aujourd'hui qu'elles ne pouvaient pas faire avant, et donc on l'expliquera aussi. Voilà. Alors, ça c'était la nécessité des parents, des enfants d'utiliser du matériel. Maintenant, on s'est posé la question, est-ce que cette nécessité de matériel, elle se traduit par une augmentation des investissements, des dépenses faites par les parents? Eh bien oui, puisque pour 91% des parents qui nous ont répondu, en secondaire, il a été nécessaire d'équiper l'enfant en matériel informatique. Mais alors une partie d'entre eux, évidemment, ont réutilisé du matériel qu'ils avaient déjà à la maison ou qu'ils avaient utilisé pour des enfants qui sont devenus plus âgés. On s'est posé aussi la question des demandes des écoles, donc lorsque l'école demande à l'enfant de s'équiper, quelle est la demande? Alors, la plupart des temps, ça veut dire un ordinateur individuel, un notebook, un ordinateur portable. Il y a des écoles particulièrement primaires qui demandent des tablettes. Il y a aussi pas mal de demandes d'imprimantes. Ça, c'est souvent dans le cadre, évidemment, des devoirs du travail à imprimer. Et alors, beaucoup aussi de connexions Internet à domicile qui sont demandées, qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser le travail scolaire. On verra après que, particulièrement ça, c'est assez interpellant parce que ça entre en contradiction avec les règles qui existent normalement sur le travail scolaire et dans quelles circonstances on peut demander du travail scolaire. Donc, je reviens sur ma question précédente. On a posé la question aux parents de à quel moment c'était nécessaire d'avoir un ordinateur dans le cadre scolaire. Ça ne veut pas dire spécialement que l'école fait obligatoirement la demande de façon explicite. Mais lorsqu'elle le fait de façon explicite, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des situations où on ne demande pas avec une liste de rentrée d'amener un ordinateur, mais on organise l'enseignement de façon à ce que ce soit nécessaire d'amener un ordinateur à l'école ou de l'utiliser à la maison. Quand il y a une liste de rentrée qui dit « il faut avoir un ordinateur », quand l'école fait la demande de façon explicite, on s'est posé la question de comment cette demande elle était formulée. Eh bien, dans ces situations-là, dans 33% des cas, c'est annoncé comme obligatoire. Vous devez amener un ordinateur, c'est nécessaire. Dans 43% des cas, l'école présente cet achat comme facultatif, mais dans les faits, c'est nécessaire pour suivre l'enseignement. Puisque on dit, ben voilà, demain à l'école, il y aura, ou après-demain, on vous demande d'amener tel travail scolaire ou d'envoyer par mail le travail scolaire. Et puis, dans 13% des cas, l'achat est annoncé comme facultatif, mais et effectivement, il n'est pas nécessaire pour suivre l'enseignement. Alors, je reviendrai après sur le cadre légal actuel, mais en fait, ces 13% des cas correspondent au cadre légal actuel. Donc, le cadre depuis la crise Covid, c'est que amener un ordinateur à l'école, acheter un ordinateur pour le cadre scolaire, les écoles peuvent le proposer, mais c'est toujours censé être vraiment facultatif. Donc, c'est seulement dans 13% des cas que l'école respecte la loi. Alors, normalement, le cadre légal, il exige aussi que si l'école demande l'achat d'un matériel informatique, elle organise cet achat possible dans le cadre de l'école, par exemple avec un fournisseur avec lequel elle a négocié, ou alors avec une centrale d'achat. L'intérêt d'une centrale d'achat, vous le savez, c'est que ça évite que le parent aille tout seul à la FNAC avec le prix d'achat à la FNAC. Mais si on fait un achat collectif au niveau de l'école, ben ça donne un pouvoir de négociation pour acheter un ordinateur moins cher. Eh bien, même chose, c'est une minorité d'écoles qui respectent ce cadre légal. Et donc, dans 39% des cas, quand les écoles demandent explicitement l'achat de matériel informatique, dans 39% des cas, elles organisent une centrale d'achat. Donc, là, je viens de vous expliquer, première chose, dans combien de cas c'était nécessaire d'avoir un matériel informatique. Je me concentre surtout sur le secondaire, parce que donc en primaire, c'est un vrai problème, mais en primaire, c'est censé être illégal. Donc, en secondaire, dans 90% des cas, il est nécessaire d'avoir un ordinateur pour le travail scolaire. Quand l'école le demande de façon explicite, de façon massive, elle ne respecte pas le cadre légal qui est expliqué. Et alors, qu'est-ce que ça génère de façon générale? Donc, quelles que soient les pratiques, est-ce que ce soit légal ou illégal, au niveau des élèves, eh bien, ce matériel informatique, il coûte en moyenne 600 euros par élève en secondaire. Enfin, je dis en moyenne, en fait, on a regardé la médiane, qui, comme vous le savez, une médiane, en fait, on regarde, on classe les achats des moins chers aux plus chers, on prend 50%, et donc ça évite que les valeurs dites extrêmes, elles influencent trop. Puisque, ben, par exemple, un parent qui déciderait d'acheter, parce qu'il a les moyens, un Macintosh super dernier cri, et ça va faire beaucoup évoluer la moyenne vers le haut, mais par contre, la médiane, ça ne va pas l'affecter, et donc c'est pour ça qu'on se concentre sur cette médiane. Donc c'est 600 euros, attention, c'est non seulement l'ordinateur, mais c'est aussi éventuellement la connexion Internet, éventuellement l'imprimante, et puis les licences logicielles, parce que si on achète un Windows et qu'on ajoute la licence pour avoir Word, Excel, PowerPoint, ben, ça coûte 70 euros par an, par exemple, cette licence-là. Donc l'ensemble de ce coût, il est de 600 euros par élève. 600 euros par élève, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans des enquêtes précédentes, on s'était centré uniquement sur la question de l'ordinateur, donc de la pure machine. C'était un peu moins cher, mais c'était déjà très impressionnant. Mais là, 600 euros par élève, c'est vrai que c'est assez interpellant. Donc, 600 euros, pardon, en secondaire. Vous voyez qu'en primaire, ce coût d'achat existe aussi, mais qu'il est moins important, aux alentours de 375. C'est notamment parce que quand on demande des achats, c'est davantage des tablettes en primaire qu'en secondaire. Alors, on a aussi posé la question aux familles, est-ce que ces achats de matériel informatique vous ont mis en difficulté financière à la rentrée? Et la réponse est oui, dans un cas sur cinq. Et là, deux points importants. Le premier, c'est que la question qu'on a posée, c'était uniquement par rapport au matériel informatique. Donc, c'est en dehors de le reste des fournitures scolaires, en dehors de, par exemple, les frais de voyage et d'excursion, enfin, tous les autres frais scolaires qui existent, ils se surajoutent, et puis il y a les coûts de la vie en général. Mais nous, on a vraiment posé la question uniquement ce matériel informatique. Et la deuxième chose, je vous disais le petit point d'attention méthodologique, c'est que ici, c'est pour les familles qui nous ont répondu. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de familles de milieux populaires qui n'ont pas répondu à cette enquête et pour lesquelles, a priori, on se doute bien que le coût est d'autant plus difficile. Et donc, très certainement que ce 21% est en fait beaucoup plus si on avait une étude où on avait pu regarder l'ensemble de la population avec une représentation égalitaire parmi les différentes couches de la population. Dernière chose, on s'est posé la question est-ce que vous avez reçu en tant que famille de l'aide pour acheter ce matériel informatique ? Eh bien, 8% des familles nous disent oui, ce sont des membres de la famille, le grand-père, la grand-mère qui a donné un petit peu d'argent pour pouvoir aider à financer l'achat. On a 6% de familles qui nous disent j'ai reçu une aide financière mais ni de la famille ni de l'école. Alors ces 6% en fait, c'est particulièrement beaucoup de commentaires qu'on a eu, c'était des aides pour de l'AVIC. Donc c'est pour des élèves qui ont des troubles d'apprentissage et il y a des supports numériques spécifiques qui peuvent aider pour des troubles d'apprentissage. Je vais pas trop y revenir dans le cadre ici, mais maintenant si vous avez des questions, on peut en reparler après. Et alors 3%, et c'est ça qui va nous intéresser, 3% nous disent via l'école on a reçu une aide. Le cadre légal qui existe aujourd'hui, dont je vais un petit peu parler davantage après, il prévoit donc, comme je le disais, non seulement qu'il y a une centrale d'achat, non seulement que ce soit facultatif, mais aussi que quand on achète via l'école, on reçoive de l'argent de la part de l'école pour diminuer le coût à charge des familles. Eh bien, les parents qui nous ont répondu nous ont dit, 3% d'entre eux, on a reçu une aide. Alors, maintenant on va faire une petite évaluation, un petit bilan, de cette fameuse stratégie numérique. Donc depuis la crise Covid, le gouvernement a mis en place des aides pour éviter que les coûts à charge des familles du fait de la numérisation des apprentissages soient tellement importants. Le bilan, on l'a fait du coup particulièrement par rapport à notre analyse, mais on a aussi ajouté à ça des déclarations que le ministre président de la Fédération Unie de Bruxelles, donc Pierre-Yves Giollet lui-même, a donné au Parlement à la fois en avril et en septembre. Donc les chiffres qu'on va donner sont vraiment solidifiés. Cela, ils ne présentent pas les biais méthodologiques dont je parlais au début. Alors, qu'est-ce que ça a été la stratégie numérique du gouvernement ? Ça s'est fait en deux volets. Première chose, crise Covid, gros problème. L'enseignement se fait en distanciel. Il y a plein de familles qui n'ont pas d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait ? Le premier volet, on a dit, on va donner à 5% de la population de chaque établissement un ordinateur. Donc on finance la totalité. L'ordinateur va être financé à 100%, il sera gratuit et on va le donner. On a l'argent en 2020-2021 seulement pour le faire pour 5% de cette population scolaire, mais donc, voilà, ça c'était le premier volet. Le deuxième volet, à partir de 2021-2022 et puis 2022-2023, qui est le volet, le seul qui est encore actif aujourd'hui, le volet 1 c'était un one shot, ça a été un subside. Donc on va pas financer l'ensemble de l'ordinateur, on va financer une partie par les pouvoirs publics. En 2021-2022, ça a été 75 euros par achat d'ordinateur. Donc un élève sur l'ensemble de sa scolarité aura droit à un bon de réduction de 75 euros. Et puis en 2021-2022, on a augmenté ça à 150 euros de bon d'achat une fois sur la scolarité secondaire. Donc ça, c'était une première partie. Et puis en plus de ça, on ajoute un fonds de solidarité. Donc ça, cette idée, c'est de dire on va donner aux directions d'établissement un montant d'argent avec quelques critères, mais relativement à leur discrétion. S'il y a des familles qui ont plus de difficultés financières que d'autres et qui viennent trouver la direction pour dire avec les 75 ou 150, je n'y arrive pas, on peut rajouter de l'argent avec le fonds de solidarité pour compléter et éviter que ce soit trop cher. Ça, c'était les volets de la stratégie numérique. Et on a ajouté à ça une modification du décret gratuité qui est ce dont je vous parlais un petit peu au début, ce qui a permis en fait à ces écoles maintenant de proposer ou de recommander l'achat d'ordinateurs. Et donc maintenant, aujourd'hui, dans ce décret gratuité, on a assoupli et on a dit que dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, vont être considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur. Et ces frais qui sont liés à l'achat ou à la location d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixées par la communauté française. En clair, les écoles peuvent proposer, elles peuvent recommander fortement l'achat de matériel, mais cet achat est censé être volontaire. Et si elles font cette proposition ou cette recommandation, alors elles doivent mettre en place un cadre qui donne accès à ces bons d'achat de 75 puis de 150 euros et qui organise par exemple un fournisseur agréé avec des critères ou une centrale d'achat. Comme vous le voyez, le « et si, et si, et si », tous les critères qui ont suivi, la deuxième partie de la phrase, on a déjà vu que ça n'a pas fonctionné et que la plupart des établissements n'ont pas mis en place. Maintenant, on va se poser la question de est-ce que ce bon d'achat, lui, il a fonctionné? Alors, ça c'est le budget total alloué à la stratégie numérique, donc ce budget qui permet de réduire le coût à charge des familles. Chaque année, depuis maintenant 2021-2022, pour ces subsides, le gouvernement a mis sur la table 15 millions d'euros. 15 millions d'euros qui servent notamment, pas que, mais notamment à réduire le coût à charge des familles. En 2021-2022, lorsque le budget, lorsque le subside, le bon d'achat était de 75 euros, il y a eu 1 million d'euros qui a été utilisé. Et donc ça veut dire qu'il y a eu 14 millions d'euros qui sont restés non utilisés. En 2022-2023, on a remis 15 millions de nouveau sur la table. On avait augmenté le subside de 75 à 150 euros en tablant sur le fait que cette augmentation allait faire fortement augmenter en se disant, bon ben 75 c'était pas un incitant entre guillemets suffisant pour les familles d'aller chercher cet argent. Et donc on est passé de 1 million d'euros à 2,2 millions d'euros. Mais ce qui veut dire qu'il y a toujours 13 millions d'euros qui ne sont pas utilisés. Et donc de façon très concrète, aujourd'hui le gouvernement met de l'argent public sur la table pour financer l'achat d'ordinateurs. Cet argent public est massivement non utilisé. Et par contre, il autorise les écoles à quand même demander des frais aux familles de leur poche pour financer l'achat de ces ordinateurs, alors que l'argent public n'est pas utilisé. Alors ici, j'ai des chiffres qu'on n'a pas encore su actualiser parce que Pierre-Yves Jeuret n'a pas encore répondu à cette question-là. Mais donc, en tout cas, en avril 2023... Ça permet de donner un élément de compréhension. On a regardé, voilà, ce premier volet, comment est-ce qu'il a fonctionné en termes de nombre d'ordinateurs qui ont été donnés dans les établissements. Et puis quand il y a eu un subside de 75 euros, le nombre d'ordinateurs, et puis quand il y a un subside de 150 euros, le nombre d'ordinateurs. Eh bien, on voit que le fonctionnement du volet 1, donc des ordinateurs gratuits distribués directement dans l'école, en fait, ça fonctionnait. C'est pas complètement 5% des élèves qui ont été fournis, mais en fait, il y a eu beaucoup d'ordinateurs qui sont arrivés dans les écoles à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on est passé dans des subsides, ça n'a pas fonctionné. Ça a beaucoup moins fonctionné. Ici, on le voit, hein, donc la barre de 0 à 100%, c'est l'ensemble de la population de l'enseignement secondaire, donc l'ensemble des élèves qui sont inscrits en secondaire. Et puis, en vert, au-dessus, c'est le volet 1, donc 6% en fait des élèves qui ont reçu un ordinateur. En jaune, c'est le volet 2 quand c'était 75 euros de subside. Et en orange, c'est le volet 2 quand c'est devenu 150 euros. On voit effectivement ici que ce volet 2 a beaucoup moins bien fonctionné que le volet 1. Donc quand on donne des subsides, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on donne directement les ordinateurs gratuitement, là, ça fonctionne.
Pourquoi ça fonctionne pas ?
Alors, il y a deux hypothèses à ça. La première que le gouvernement, sur le gouvernement s'est basé, ça a été de se dire, en fait, 75 c'est pas assez, donc on va augmenter à 150, parce que en fait les parents viennent pas demander, quoi, ou les écoles trouvent pas que c'est assez intéressant.
Les écoles étaient au courant, les parents étaient au courant.
Bien sûr, les écoles étaient au courant, elles ont reçu des circulaires qui leur demandaient. Oui, les écoles étaient au courant, les parents moins. Mais ce sont les écoles qui sont censées mettre en place. Donc la logique du fonctionnement était celui-là. L'école ne peut proposer ou recommander que si elle met en place une centrale d'achat et qu'elle elle propose ou elle recommande pour que le parent vienne à l'école, dise « je veux un ordinateur », paye sa partie à l'école et l'école finance le bon d'achat. C'est ça la logique. Mais ça ne s'est pas mis en place de cette façon-là. Les parents n'étaient pas tous au courant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait « mais en fait, c'est beaucoup trop compliqué ». Parce que quand on est une école, on n'est pas censé être une centrale de marché. Et donc, le système que ça demandait aux établissements, c'était vous devez mettre en place une centrale d'achat, renseigner un fournisseur. Alors, il y a des fédérations de pouvoir organisateurs qui ont mis en place des centrales d'achat collectives, mais quand même, c'est « j'annonce aux parents, je récolte l'argent ». J'active les bons d'achat, à chaque fois c'est des bons d'achat individuels à débloquer sur un système particulier. Conséquence, en tout cas beaucoup d'établissements ont très bien compris la première phrase, vous pouvez proposer ou recommander aux parents d'avoir un ordinateur à l'école, mais par contre la deuxième partie, on a beaucoup plus oublié. Donc là, je repasse vite dessus parce qu'on avance aussi dans le temps, mais juste pour dire qu'il y a eu extrêmement peu d'élèves qui ont été aidés. Et alors nous, et là je reviens à notre enquête, et donc de nouveau, attention biais par rapport à qui a répondu, les 1000 parents qui nous ont répondu, on a demandé, mais tiens, si vous receviez 150 euros pour l'achat de cet ordinateur, est-ce que ce serait suffisant? La moitié nous dit oui, l'autre moitié nous dit, ah non, c'est encore beaucoup trop cher, on reste dans le rouge. Alors, il y a aussi des équipements collectifs qui existent dans les établissements. Première chose, on a aussi demandé, quand l'école demande expressément un ordinateur, est-ce que dans certains cas, elle met à disposition complètement gratuitement de certains élèves des ordinateurs? Vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, avec le volet 1, il y a des stocks d'ordinateurs qui étaient présents. Eh bien, on voit que dans un certain nombre de cas, dans 28% des cas, il y a des ordinateurs qui ont été proposés gratuitement, pas toujours à l'élève du parent qui a répondu, mais dans l'école, ils savaient qu'il y avait des parents qui en avaient bénéficié. Mais donc, quand l'école demande expressément un ordinateur, dans la grande majorité des cas, elle ne propose même pas pour les parents les plus précaires des ordinateurs gratuits. Deuxième chose, l'autre alternative que d'avoir un ordinateur gratuit individuel, c'est des salles informatiques en secondaire. Et là, on doit bien constater que les salles informatiques qui existent aujourd'hui, dans des écoles secondaires, il y en a qui n'existent pas. Et puis il y en a qui sont de mauvaise qualité, puis il y en a où on ne sait pas si elles existent, où on ne sait pas si la qualité est bonne ou mauvaise. Et donc en tout cas, les parents qui nous ont répondu, il y en a 15% d'entre eux qui savaient dire avec certitude, oui, il y a une salle informatique, et oui, le matériel est en quantité, en qualité suffisante, et avec des heures d'ouverture correctes. Alors, heureusement par rapport à ça, il y a par ailleurs, au niveau des régions, une augmentation de plus en plus importante des budgets publics, qui sont alloués à acheminer du matériel collectif dans les établissements. Et bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais pour vous dire que depuis 2022, il y a maintenant, du fait en fait notamment des plans de relance européens, une énorme augmentation des budgets publics qui sont loués à ça. Et il y a des plans d'équipement, en tout cas la région Wallonne, ça va être le cas beaucoup, en région bruxelloise un petit peu moins, mais quand même pas mal, qui vont faire vraiment augmenter exponentiellement le nombre de matériels. Donc c'est non seulement les anciennes salles informatiques, je veux dire les tours, enfin la salle elle-même, mais en fait c'est aussi des ordinateurs portables qui peuvent être disponibles en prêt et qui peuvent voyager de classe en classe. Alors, face à cette situation qui est quand même assez terrible, de voir la différence entre les réalités vécues par les parents, les difficultés financières et l'échec quasiment total de la stratégie numérique qui a été mise en place actuellement, quelles sont les propositions de la Ligue des Familles? Première chose, on propose que ce budget stratégie numérique, 15 millions d'euros par an, qui est massivement non utilisé, soit réaffecté. On reprend ces 15 millions d'euros, on augmente un petit peu le financement, on organise une centrale d'achat d'ordinateurs au niveau de l'ensemble de la Fédération de Bruxelles pour avoir un pouvoir de négociation avec les fournisseurs d'ordinateurs. Et en augmentant un tout petit peu les moyens, eh bien, on peut réussir à donner un ordinateur à chaque élève qui entre en première secondaire chaque année. Ça coûterait, en fonction de quel serait le coût moyen, entre 16,5 et 19,3 millions d'euros. Quand on parle de 15 millions d'euros, c'est un investissement, mais c'est pas impossible. Par exemple, on vient de gagner cette année la gratuité des fournitures scolaires en 3e primaire. Ça coûte 4 millions d'euros, donc vous voyez qu'on est plus ou moins dans cet ordre de prix-là. Alors, si on n'arrive pas à faire tout en une fois, ben, nous, on propose que la priorité soit donnée aux établissements des indices socio-économiques les plus faibles d'abord, mais qu'on augmente en régime de plus en plus. Et donc, lié à ça, évidemment, ça veut dire que dès le moment où les 6 années auront été faites et que du coup, il n'y a plus de classe sans ordinateur individuel par élève, eh bien alors, on interdit toute forme de frais facultatifs d'équipement numérique et on interdit ces possibilités pour les écoles de, en plus de ça, demander aux parents de payer du matériel informatique. En parallèle, dans l'attente de la gratuité, donc en attendant ce 2029-2030, ben, on propose aussi de plafonner à 200 euros par élève le coût par parent que les écoles peuvent de nouveau proposer ou recommander. Et puis surtout, ce qu'on voudrait, c'est que on reformule cette disposition du décret gratuité pour dire à partir du moment où l'école rend nécessaire de facto le fait d'avoir un ordinateur, alors elle doit s'organiser avec le matériel collectif pour pouvoir le donner gratuitement aux élèves. Pourquoi est-ce qu'on propose de faire ça de façon temporaire? Parce qu'il faut aussi se rendre compte que dans une situation temporaire, il y a des familles qui ont bénéficié via l'école, quand c'était vraiment facultatif, de prix plus intéressants que c'était sur le marché. Et donc, de façon temporaire, c'est pas idiot de permettre de continuer à avoir ce service à partir du moment où c'est réellement facultatif, que c'est concrètement volontaire et que l'école ne le rend pas complètement obligatoire. Alors, là j'ai fait un premier point sur l'équipement numérique. Je vais maintenant passer rapidement à la partie 3. En fait, je vais pas avoir le temps de faire l'éducation numérique. Ce serait dommage, mais quand même juste vous dire que, en fait, ce qui est assez intéressant, notamment par rapport à l'exposé que Nico Hirt a donné, c'est qu'il y a maintenant des nouveaux référentiels qui commencent à être mis en application à partir de maintenant. Ils commencent en troisième primaire, et donc petit à petit, notamment ce que Nico disait sur le fait qu'il y ait un apprentissage de comment ça fonctionne, c'est quoi le codage, etc., etc. Ben c'est des compétences qu'on va apprendre, qu'on n'apprenait pas avant, mais donc il y aura un petit peu de ça qui seront dans les écoles. Maintenant, le problème principal que nous on amène, c'est que c'est à la fois un petit peu trop centré de nouveau sur les compétences techniques et pas sur les connaissances et aussi pas sur les questions éthiques derrière la question du numérique. Donc nous, on aimerait bien augmenter cette question-là. Et alors, on aimerait bien aussi que, en termes de rythme d'apprentissage, il n'y ait pas un décalage comme ce qui risque de se faire dans certaines choses, c'est-à-dire on constate qu'en moyenne, les pratiques des jeunes, elles se font à un certain âge et puis un an ou deux ans après, on commence à les voir dans les écoles. Voilà. Et alors, évidemment, il y a un point d'attention sur si on veut que les élèves apprennent le numérique, ben, il faut que les enseignants soient outillés. Dernier point, et pas des moindres, et puis je te passerai la parole. La question de la communication numérique, alors elle se massifie aussi avec Covid, et il y a deux problèmes par rapport à ça. Par rapport à la communication entre les élèves et les enseignants, on constate que, surtout en secondaire, c'est massif maintenant que l'école communique avec l'enfant de manière numérique. 77% des enseignants en secondaire communiquent de façon numérique avec l'élève. Ce qui n'est pas un problème nécessairement s'il y a un cadre autour de ça. Par contre, quand il n'y a pas de cadre, qu'est-ce que ça génère ? Ça génère que il y a de plus en plus de sollicitations numériques des élèves en soirée ou le week-end. Alors là, je vais faire un point d'attention. En fait, ça, c'était un problème massif pendant Covid. Donc pendant Covid, il y a un brouillage complet de c'est quoi le temps scolaire et c'est quoi le temps non scolaire. D'ailleurs, il y avait un brouillage, ben, c'est quoi l'espace scolaire et l'espace non scolaire, puisque tout se faisait à la maison. Et ça augmentait énormément le stress des élèves, parce qu'ils recevaient une information complémentaire. Ah oui, pour demain, par rapport au devoir que je vous ai demandé, il faut faire ça en plus, je vous envoie les consignes encore tantôt. Oui, c'est le week-end, mais pour l'évaluation de lundi, je vous envoie des consignes complémentaires ou des informations à lire pendant le week-end. Et du coup, on n'a pas de temps de repos, quoi. Eh bien, on constate que cette pratique, elle est moins importante en termes de fréquence, mais elle est tout aussi massive en termes d'existence. Il y a 21%, donc un élève sur 5, qui a des sollicitations numériques en soirée ou le week-end. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de droit à la déconnexion numérique qui a été reconnu par la FOEB aux élèves. Et donc, constat aussi, c'est que ça continue d'augmenter beaucoup le stress. Donc, l'absence de déconnexion numérique, vous voyez qu'il y a 60% de parents qui nous disent oui, l'enfant est soit un peu plus stressé, soit beaucoup plus stressé par ses communications hors temps scolaire. Et ça vient aussi du fait que les canaux se multiplient. Donc, est-ce que je vais recevoir l'information par une plateforme, par une deuxième plateforme, parce que les équipes enseignantes ne se coordonnent pas ? Est-ce que je vais la recevoir par mail ? Est-ce que je vais la recevoir par WhatsApp ? La multiplication, ben, ça crée la peur aussi de perdre l'information. Voilà. Alors, communication numérique parents-enfants. Petit point, mais je vais y passer très vite parce que tu y reviendras peut-être. Il y a des inégalités numériques qui sont majeures en Belgique. Elles sont en train de diminuer au niveau de la fracture de premier degré, donc les gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Du fait de Covid, ça a forcé tout le monde à s'équiper. Il y a encore des zones blanches, mais voilà. Après, ça reste quand même 7% des Belges environ, c'est quand même pas rien. Et alors par contre, la fracture de deuxième degré, donc les inégalités de compétences, de capacité d'utilisation de l'outil, elles ont explosé parce qu'il y a une obsolescence importante. En fait, la norme de les compétences que la société demande a explosé avec Covid puisque tout se numérise et donc il y a un décrochage de plus en plus important. 39% des Belges aujourd'hui sont en fracture de deuxième degré selon la Fondation Baudouin. Par exemple, 30% n'utilisent pas de traitement de texte. Donc ça fait 46% des Belges en tout. Et si on regarde les 25-54 ans, parce qu'on pense souvent que c'est les plus âgés, le troisième âge. Non, non. Dans les 25-54 ans, il y a 38% des Belges qui sont en fracture numérique générale. Donc, premier plus deuxième degré. Et dans le premier quintile, donc dans la partie la plus pauvre de la population, là, c'est vraiment majeur. 63% des gens sont en vulnérabilité numérique. Alors, dans ce contexte-là, on constate que la communication est devenue quasiment exclusivement numérique pour 6 parents sur 10 en secondaire. Donc c'est vraiment massif et les écoles ne tiennent pas compte du fait qu'il y ait ces inégalités. Alors, de nouveau, petit bémol, on a sans doute, peut-être qu'on est un peu trop alarmiste là-dessus cette fois-ci, justement parce que les parents qui nous ont répondu sont ceux qui ont répondu par le numérique. Mais quand même, c'est massif. Donc par le numérique, mais certains, via les écoles de devoirs, nous ont répondu en étant accompagnés, voilà. Alors, un journal de classe sur 10 aussi est exclusivement numérique en secondaire. Et alors, 25% des familles nous ont dit « Je ne suis pas satisfaite de la communication, on a laissé le champ libre, j'ai pas le temps malheureusement d'expliquer tout, mais on peut en reparler. » Mais un des points notamment, c'est cette multiplication des espaces. Et chez les parents, c'est encore plus fréquent. On utilise les mails, on utilise une plateforme, un autre professeur utilise une autre plateforme. Il y a aussi la question, il y a WhatsApp, il y a les réseaux, d'autres réseaux sociaux, et on s'y perd. Alors, voilà, je vais, avant de passer à ma conclusion peut-être, je te passe la parole pour la suite. Deux points que lire et écrire ont mis en avant de façon beaucoup plus importante que nous et qui nous ont tellement interpellés qu'on a travaillé ensemble là-dessus.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Iria Galvan et je travaille à lire et écrire Bruxelles. Mon domaine de recherche n'est pas l'école, n'est pas la pédagogie. Je suis surtout axée depuis 4-5 ans sur l'accès au droit et la dématérialisation des services publics. Par dématérialisation, je comprends un processus où il y a deux aspects. D'un côté, la numérisation des services publics, donc le fait que tu peux demander les services via une page web, et en même temps, la fermeture des guichets, des services téléphoniques et de la voie postale, la fermeture ou le moindre accès. Et donc, sur cette question-là, on s'est demandé comment c'était les inscriptions aux écoles à Bruxelles et les demandes d'allocation d'études. On s'est demandé et aussi on a reçu plein de demandes d'aide par rapport à ça. Et donc, ça dans un contexte que vous connaissez déjà, donc 10% de la population en Belgique a des difficultés avec la lecture et l'écriture. Les passages par les services essentiels numériques est obligatoirement par l'écrit. Et donc, il y a déjà un souci à ce niveau-là. Et après, j'utilise aussi les données de la baromètre à l'inclusion numérique de la Fondation Barrois-Baudouin. 42% des Belges peu diplômés et 30% de ceux agents de faible revenu n'utilisent jamais les démarches administratives en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés d'accès et d'usage du numérique, comme vient de dire Merlin, mais il y a aussi des difficultés avec l'écrit, avec les langages, avec la compréhension du contexte institutionnel belge, et aussi avec les termes administratifs en soi. Le langage administratif est un langage compliqué en soi, ou différent. Donc, par rapport à celles inscriptions aux écoles, à Bruxelles, donc à Bruxelles, on peut choisir entre des écoles francophones, des écoles néerlandophones, publiques, privées, confessionnelles, non confessionnelles. Il y a le libre choix, comme il y a d'ailleurs dans toute la Belgique. C'est un droit constitutionnel de pouvoir, théoriquement, choisir l'école qu'on veut pour nos enfants. À Bruxelles, 75% des parents choisissent une école francophone. Et donc, on s'est surtout concentré sur les inscriptions aux écoles communales à Bruxelles. On pourrait avoir fait toutes les écoles, mais c'était une autre démarche, c'était une démarche beaucoup plus compliquée parce que, comme on va voir, les façons d'inscrire les enfants aux écoles ne sont pas harmonisées. Donc, il y a des écoles qui demandent d'aller sur place, il y a des écoles qui demandent d'appeler, des autres qui disent « envoyez-moi un email ». Et il y a toute une diversité. Mais une chose qu'on voit systématiquement presque partout, c'est que les principes d'admission restent premier arrivé, premier servi. Il y a des exceptions pour le frère et les sœurs qui sont souvent prioritaires, ou aussi pour les enfants des parents qui travaillent dans cette école, mais en général, et surtout aux écoles communales, les principes d'admission sont premier arrivé, premier servi. Oui, voilà. Donc, pour inscrire ton enfant à une école communale, il y a des, ça dépend de ta commune. Il y a des communes où le système est centralisé au niveau de la commune, donc il faut contacter la commune pour inscrire ton enfant à une école communale. Et il y a des autres communes où il faut contacter l'école que vous voulez choisir pour votre enfant. Il y a de plus en plus de communes qui centralisent les démarches. Donc, dans 11 communes bruxelloises, c'est un système centralisé à des avantages, un système centralisé. En principe, théoriquement, est plus transparent, est plus équitable. Il y a plus de vision de la situation. On peut éviter les doubles inscriptions, par exemple. Et par contre, quand c'est école par école, donc quand les parents doivent aller à l'école, s'est présenté, il y a souvent, parfois, pas souvent, je ne sais pas si dire souvent, il peut y avoir, on va dire comme ça, un contournement des règles, parce que finalement, les écoles choisissent souvent les élèves, ils ont aussi une espèce de chouche, on préfère, c'est une école souvent de ce type d'élèves, on préfère ses parents, on préfère les autres, et donc il peut y avoir, on va dire comme ça, un contournement des règles. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand c'est décentralisé, donc quand tu inscris ton enfant à l'école directement, il y a quand même une diversité de canaux pour le faire. Souvent, tu peux aller directement à l'école, tu peux l'appeler, tu peux envoyer un email. Alors que quand le système se centralise, il y a beaucoup moins de canaux pour inscrire ton enfant. Donc j'ai fait un petit tableau. Ça, c'est les communes qui ont centralisé les systèmes d'inscription aux écoles. Et on voit que, par exemple, aucune commune propose un système sur place. Ça, c'est aucune commune. Aucune commune non plus propose email. Il y a, je vais raconter un, deux, trois. Il y a 7 communes qui proposent d'inscrire l'enfant par Edisbox. Donc, par Edisbox, il faut s'identifier, il faut avoir la carte d'identité avec un code PIN et une petite machine pour se connecter, ou avoir It's Me. Il y a 2 communes qui proposent un formulaire en ligne et il y a 3 communes qui proposent un système de téléphone. J'ai mis en vert les communes qui proposent un système que je trouve qui est plus accessible. Donc, la commune de Bruxelles, Mille Bruxelles, propose 2 canaux. C'est la seule qui propose de choisir entre 2 options. Ce qui donne quand même une option aux parents qui ont des difficultés avec les numériques. Anderlecht et Saint-Josse proposent exclusivement les téléphones. Et il y a beaucoup de communes, donc Evere, Gans-Oren, Jet, Bergen-Saint-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek, Uccle et Forêt qui ne proposent que les canaux numériques. C'est la seule option. Première servie, première demandant, première arrivée, première servie, mais par une voie numérique. Ces communes qui proposent ça, ils proposent en même temps... Ah, il y a une question ?
Oui. Et peut-être je m'écarte un peu de la thématique, si je le fais du moins. Mais, donc, dans le cas de ces écoles communales, on pourrait dire que même si les enfants sans papier et ont un droit à l'éducation, et selon ces systèmes-là, le parent peut pas leur inscrire. Les parents sont...
Et donc, ils donnent l'option à qu'une troisième personne qui a une carte d'identité belge, puisque finalement, il faut une carte d'identité belge, inscrit ces enfants-là. Okay. Donc, il y a... Ces communes proposent un accompagnement vers le numérique. Il y a certaines communes qui proposent un test sur Irisbox. Donc, tu ne sais pas utiliser Irisbox, t'en fais pas. 3 jours avant, on va ouvrir Irisbox pour ça, et tu vas pouvoir essayer de pratiquer comment inscrire ton enfant sur Irisbox. J'ai une amie, je veux le dire, qui a des études supérieures, qui a dû essayer plusieurs fois pour savoir inscrire son enfant. Donc elle a fait des tests, elle s'est entraînée pour inscrire son enfant. Donc c'est super efficace comme système. Je veux dire, le fait qu'on doit s'entraîner pour demander un service public, ça me semble quand même incroyable. Il y a d'autres communes qui proposent d'aller à un espace public numérique, donc de faire un rendez-vous et demander l'aide là-bas. Il y a certaines communes qui proposent directement d'appeler les services d'éducation pour avoir une aide, un rendez-vous et une aide. Et il y a d'autres communes qui proposent un service téléphonique pour aider les parents. Mais l'enjeu fondamental pour nous, c'est que dans un système où les places sont limitées, où il y a un libre choix théorique d'école, et en même temps des écoles où malheureusement, ont une mauvaise réputation. D'autres écoles qui sont considérées comme des très bonnes écoles, et on ne va pas nier la chose, souvent les écoles qui sont considérées des bonnes écoles sont des écoles où il y a quand même des enfants sortis d'une couche, comme je pourrais dire, riche, ou moins pauvre, on va dire comme ça, qui sont moins colorés, ou qui sont, on peut dire comme on veut, je pense qu'on sait tous de quoi on parle. On devient dingue pour inscrire ton enfant. Les premiers jours à 8h, lundi 6 novembre, 8h du matin, s'ouvrent les inscriptions. Les parents deviennent fous pour inscrire leurs enfants dans une école considérée bonne. Et une demi-heure plus tard, souvent ces écoles sont déjà foules. Donc les parents en difficulté, qui sont finalement, on va le dire clairement, sont finalement les parents souvent qui ont sont peu diplômés, les enfants qui ont moins de revenus, ils vont devoir... demander un rendez-vous à l'espace public numérique, appeler par téléphone pour avoir un rendez-vous au service d'éducation. Est-ce qu'ils vont avoir un rendez-vous lundi 6 novembre à 8h? Je m'en doute, sincèrement. En même temps, le système était déjà compliqué avant, parce qu'il faut avoir les informations. Il faut savoir que le lundi 6 à 8h, ça ouvre la période des inscriptions. Il faut savoir quelle est la bonne école, quelle est la mauvaise école. Et il faut s'inquiéter de tout ça. Il y a plein de choses à savoir. Il faut savoir qu'il y a des écoles communales, des écoles non communales. Et donc, voilà, ça qui était pour nous l'enjeu majeur, c'était que finalement, les gens des milieux populaires ne vont pas choisir l'école. Ils vont devoir passer par ces parcours de combattants pour pouvoir inscrire leurs enfants. Et ça va être plus tard, sûrement. Et donc, je voulais vous réfléchir avec vous, mais je pense qu'il n'y a pas le temps, de pourquoi c'est important qu'il y ait une mixité sociale dans nos écoles et pourquoi cette numérisation des inscriptions est une difficulté en plus à beaucoup d'autres difficultés pour faire que ces écoles deviennent plus mixtes socialement. C'est un enjeu important, mais je pense qu'après, on peut parler sinon dans les groupes de travail sur cette question de la mixité sociale. Ouais, c'est ce que je parle. Et donc, c'était un peu pourquoi c'est important. Et je voulais parler aussi de l'enquête PIRLS, que c'est une enquête qui mesure la compréhension en lecture des enfants de 9-10 ans et qui montre que nous, on est vraiment pas très bien. On est les pires des 18 pays à ce niveau-là. Bon. Mais moi, toute mon inquiétude quand j'ai fait cet article sur les inscriptions de l'école, c'était la ségrégation sociale et c'était les parcours du combattant pour les personnes analphabètes. Mais j'étais surprise la semaine passée que j'ai enregistré des personnes dans des associations d'alphabétisation sur leurs difficultés numériques pour un événement qu'on avait mardi passé. Et donc j'ai trouvé cette dame qui m'a parlé et qui m'a dit ça.
Avant, j'ai travaillé à Anderlecht. Après, quand j'ai fini le travail là-bas, je ne travaille pas là-bas. Ma fille, elle reste toujours, même l'école d'Anderlecht. Moi, j'habite à Berkham Saint-Agathe. J'ai inscrit ma fille à l'école de Berkham Saint-Agathe. Il dit qu'elle va y aller écrire dans l'ordinateur. Moi, je ne connais pas le faire écrire pour l'ordinateur. Alors, je suis continuée, ma fille, à l'école d'Anderlecht. Alors, c'est loin pour moi. Je prends le métro 82. Jusqu'à la gare de l'Ouest, je prends le métro jusqu'à à Saint-Guido. Après, je prends le tram jusqu'à le tram 81 jusqu'à Terminus. Alors, c'est loin pour moi, c'est pour ça. Je peux pas demander chaque jour quelqu'un pour midi. Pour appeler à téléphone pour prendre rendez-vous de la commune ou de l'hôpital.
Alors, je ne sais pas si vous avez compris, cette dame travaillait à Anderlecht et elle avait sa fille inscrite à une école à Anderlecht. Après, elle a fini son travail à Anderlecht et elle a déménagé à Berkham-Saint-Agathe. Donc, elle voulait déménager, elle voulait changer sa fille d'école pour ne pas faire une promenade tous les matins avec sa fille dans les transports en commun, dans le transport public, mais elle n'a pas réussi parce que c'est online. Donc j'ai regardé sur la page web de Berkham Saint-Agathe pour savoir, effectivement, il faut remplir, comme j'avais mis dans le tableau, un formulaire en ligne, mais si tu navigues sur Internet, tu arrives à un téléphone, où tu peux appeler si tu as un souci. Et cette personne n'a même pas arrivé à ça. Donc elle a simplement renoncé, elle fait ses promenades tous les matins avec sa fille et tous les soirs, que je pense qu'il ne les met pas dans de bonnes conditions parce que c'est trois transports différents. Donc c'est pour ça aussi que nous avons une campagne très forte contre l'ordonnance Bruxelles numérique pour l'instant, pour dire qu'il faut des guichets et des services téléphoniques. Les deux choses pour accéder à tous les droits, à tous les services publics, ça inclut l'inscription aux écoles. Ok. Et après, par rapport aux allocations d'études. Aux allocations d'études, on est arrivé d'une façon un peu indirecte, parce que ce n'est pas le sujet de travail de lire et écrire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui viennent à formateurs et formatrices de lire et écrire pour dire « j'arrive pas à demander une bourse d'études pour mon enfant en secondaire ». En même temps, on a aussi travaillé avec Travail Social en Lutte, que c'est une association d'assistants sociaux qui travaille plus d'égalité pour tous, je veux dire rapidement. Et donc, ils m'ont donné aussi des exemples des difficultés qui sont trouvées dans la demande des bourses d'études. Premièrement, la demande est très complexe en soi. Il faut faire une demande pour chaque enfant que vous en avez. C'est pas possible de faire une demande pour la fratrie directement. Et il faut demander, il faut pour chaque enfant envoyer tous les documents, toutes les attestations, qui sont beaucoup et sont pas évidentes. Après, c'est une procédure qui se numérise doucement. Maintenant, il y a que deux options. Vous pouvez les faire en ligne et vous pouvez les faire par papier. Par papier, ça coûte de l'argent puisqu'il faut en recommander. À chaque fois que vous avez aussi à envoyer un autre document, il faut un autre envoyer et il faut envoyer un recommandé par enfant. Et c'est une demande qui est traitée plus lentement que les demandes via Internet. Et c'est la page web, j'ai fait une copie de la page web où il dit tranquillement, voilà, c'est les avantages, c'est qu'on les traite plus rapidement. Alors qu'ils savent que c'est les familles des milieux populaires qui font la demande souvent par papier. Il n'y a pas de guichet où se rendre pour renvoyer, pour déposer la demande. Il n'y a pas de guichet aussi pour poser des questions. Il y a un téléphone pour poser des questions qui est joignable de lundi à jeudi, de 9h à 12h. Pour nous, c'est une procédure qui ne respecte pas vraiment la loi. La première loi, c'est la loi Only One. C'est une loi qui garantit depuis 2014 qu'il y a une collecte unique des données. Donc, que l'administration ne peut pas vous demander les mêmes documents quatre fois, surtout s'ils sont déjà en possession de ces documents-là. Et je vais vous donner... Mais on voit que rien. On demande toutes les années la même information de façon répétée et pour chaque enfant. Donc, je vais vous donner trois exemples des assistants sociaux qui m'ont écrit pour me dire. C'est-à-dire qu'on a des refus, par exemple, car il manque la preuve des revenus pour 2020, alors que, à coup sûr, l'année précédente, ce document a été rendu. Voilà un exemple. Pour un autre cas, en insistant fortement et en se faisant passer par la bénéficiaire, mon collègue a réussi à faire la recherche à un gestionnaire qui a finalement admis qu'il avait en effet la donnée, une attestation du commissariat aux réfugiés qui est très difficile à obtenir. Un autre assistant social, mon sentiment après plusieurs années à avoir le système de demande par voie numérique s'améliorer, c'est que nous sommes ici dans l'état où l'outil numérique sème les gens en demandant toujours les documents supplémentaires plutôt que de croiser les données qu'ils en ont et faciliter l'accès aux droits. En plus qu'ils ont une obligation de pas demander des documents qui sont déjà dans les carrefours de données, la banque carrefour de données. Une autre chose, c'est que selon les règlements RGPD, une personne peut donner son consentement pour aller vers le numérique, donc pour faire la demande online, mais après, tu peux retirer à tout moment ton consentement et dire, écoute, j'ai dit que je le faisais numériquement, mais je n'arrive pas, je retourne au papier. Ça, c'est la loi. Mais ça qu'on voit, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles, une fois que tu as fait la demande par la page web, tout peut plus retourner au papier l'année suivante. Ah voilà, vous l'avez fait comme ça, c'est comme ça. Et ça qu'on voit pour beaucoup des parents analphabètes, c'est qu'ils le font comme ça parce que quelqu'un les dit, écoute, c'est plus rapide, tu vas recevoir l'argent plus rapidement, c'est plus facile, je te crée un email, je fais la demande pour toi. Mais après, quand il manque un document, la demande est faite par email. Et si vous ne répondez pas à cet email et à cette demande qui en plus a un délai, voilà, c'est perdu. Vous ne recevez pas. Et donc, c'est pour ça qu'à lire écrit, on a décidé de faire toutes les demandes via papier, parce que sinon on devait suivre les emails de chaque personne pour aussi les bourses d'études. Et je vais vous donner un exemple d'un assistant social, et j'ai fini. Un exemple malheureux de vendredi est qu'une dame qui passait par notre service pour faire les demandes depuis 2019 n'avait plus eu d'allocation depuis 2020. En fait, elle n'avait jamais accédé elle-même à l'adresse email qu'on lui avait créée à l'époque, système Cerber. Donc, sauf en 2019, les demandes n'ont jamais abouti. Désormais, sa fille est assez grande pour comprendre les démarches et reprenait celle-là avec sa maman. Nous avons tenté d'échanger l'email de référence via la plateforme et cela indiquait veuillez en informer les bons services. Ou quelque chose comme ça, sans plus de clarté. Bref, madame est repartie avec les codes de l'email qui avait été créé chez nous, donc nous avions heureusement gardé les codes, mais n'est pas en mesure de faire les changements. Elle a perdu 3 ans de droits.
Et donc, pour conclure, parce qu'on est en train un tout petit peu de dépasser le temps, résumer les propositions à la fois sur base des enquêtes qu'on avait réalisées et du travail qu'on a fait ensemble avec l'IFE Bruxelles. Pour les élèves, qu'est-ce qui est nécessaire en termes de communication numérique ? Garantie d'un droit à la déconnexion numérique. Donc, on voudrait qu'il y ait, de toute façon, à minima pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'obligation nouvelle à la fin des cours. Donc, si un professeur veut envoyer un mail avec des informations, ok, si c'est pas pour le lendemain, pourquoi pas si le professeur a besoin de temps après ses cours, mais en fait, il faut un délai suffisant et ça peut pas être pour le lendemain. Et alors, on voudrait le renforcer en plus de ce minimum via la négociation d'une charte de communication numérique, via les conseils de participation qui sont dans les écoles, ces espaces où se rencontrent tous les acteurs de l'école. Donc, à la fois les délégués des élèves, les représentants des parents, les représentants des professeurs et la direction. Et donc, sur base d'une série de choses, ils pourraient négocier ensemble quelles sont les règles, par exemple, quel canal numérique on utilise pour quelle communication d'urgence, de non-urgence, etc., etc. Deuxième chose pour les élèves, renforcer légalement la protection des données de vie privée. Donc, tu en as parlé là, mais j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a d'autres enjeux qui sont liés au fait que, ben, par exemple, on utilise les logiciels et les plateformes numériques que des géants américains construisent pour, en primaire, envoyer des photos des enfants dans des activités. Et en fait, là où ces données sont stockées, c'est des clouds, donc ça fonctionne avec, enfin, ça exfiltre ces photos, ces données, ces échanges de mails vers les États-Unis, par exemple, ou vers d'autres pays. Et donc, si c'est exporté en dehors du territoire de l'Union européenne, en fait, le RGPD est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de difficultés à s'appliquer. Et donc, nous, on voudrait qu'il y ait un renforcement de la protection à ce niveau-là. Dans le même sens que, depuis des années, la communauté française dit il faut renforcer et favoriser l'usage de tout ce qui est logiciel libre, ce genre de choses. Ben, c'est un débat qui est très fort par rapport à ça aussi, parce que sinon, on donne une captation de données de vie privée à des acteurs autres que nous. Alors, pour les parents, donc cette charte de la communication numérique, elle pourrait aussi permettre de limiter les plateformes parallèles, donc d'éviter de dire... chaque professeur choisit le canal par lequel il veut le faire. Non, on réfléchit ensemble, on voit et puis on choisit une méthode qui convient à la majorité. Deuxième chose, ben forcément, en lien avec les réécrits, il faut garantir des procédures d'inscription, des demandes d'allocation d'études, mais nous, on pense aussi à un droit au choix d'une communication essentielle qui soit numérique ou non. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'au début de l'année, lors de l'inscription, de la réinscription, il y ait un choix à cocher, entre « je souhaite une communication principalement numérique » parce qu'il faut reconnaître que pour les parents qui sont habitués au numérique, ben, c'est une facilité aussi. Ou alors « je veux continuer le journal de classe en version papier et avoir les communications essentielles par ce biais-là ». Comme ça, ça garantit, sans qu'il y ait une logique de « a priori c'est l'un ou a priori c'est l'autre », mais on donne le choix équivalent aux parents et ils choisissent. Troisième chose, important de sensibiliser les acteurs de l'école aux inégalités numériques. Donc, il y a des référentiels de formation initiale des enseignants et de formation continue des équipes éducatives. Eh bien, on pense particulièrement par rapport aux profs, mais aussi particulièrement par rapport aux centres PMS qui, souvent, dans les écoles, reçoivent la question des problèmes que vivent les parents. Ben, il faut pouvoir expliquer c'est quoi l'ampleur des vulnérabilités numériques, parce que aujourd'hui, on a vraiment une tendance très importante à penser que depuis la crise Covid, c'est bon, tout le monde s'est équipé et du coup, ça va. Non, en fait, les inégalités de compétences numériques sont vraiment très importantes, et donc on est en train beaucoup trop vite de normaliser le fait que c'est bon, on passe par là, et donc sensibilisons ces acteurs au fait qu'il y a des problèmes qui continuent d'exister et que du coup il faut éviter que a priori on se dise ok, maintenant la norme c'est le numérique et c'est bon. Voilà. J'ai oublié en introduction de dire une dernière chose. Vous savez que sur la question de cette numérisation générale des apprentissages et l'approche dont Nico Hirt a parlé, donc c'est une tendance lourde de plus en plus importante, mais qui commence à être contestée à différents endroits par certains acteurs progressistes, mais aussi, et donc il y a un enjeu à regarder comment est-ce que c'est contesté et pour quelles raisons. Donc par exemple, la Suède a décidé au début de cette année de dire non, stop, on va arrêter cette numérisation des apprentissages, on va retourner au bon vieux manuel. Alors c'est intéressant, ça amène du débat, mais il faut voir la raison pour laquelle c'est proposé. Parce que la raison pour laquelle c'est proposé, le gouvernement suédois, c'est un gouvernement minoritaire de droite soutenu par l'extrême droite au Parlement. Et donc, ils sont, eux, dans une conception autre, qui est une conception passéiste, hein, qui est une conception qui dit... Ouais, mais en fait, si on passe par l'ordinateur, ça c'est les nouvelles technologies de l'apprentissage, voilà. Et donc, en fait, le niveau va baisser. Et donc, je termine, hein, mais donc cette conception de les compétences de base, qu'on l'utilise par le numérique ou qu'on dise on recourt au canon. En tout cas, nous, notre philosophie, c'est de dire ça. Il y a du numérique dans la société. Ce qui compte, c'est de le comprendre. C'est d'avoir cette réflexion sur l'utilisation éthique du numérique. C'est d'avoir cette réflexion sur, en fait, derrière l'outil numérique, comment ça fonctionne une machine. C'est ça qui est intéressant et qui est important. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas, on n'est ni pour une généralisation complète de l'usage du numérique à l'école, ni pour un bannissement complet du numérique. La question, c'est d'avoir une utilisation raisonnée à certains moments pour servir un réel projet pédagogique et pas pour autre chose. Voilà. Ouais.